en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de la séance publique de l'Académie des Beaux-Arts du 7 mars 2012. Ce jour-là, Claudine Cohen est venue prononcer une communication en public intitulée « La préhistoire en images, l'art pariétal ».
Je vous remercie, monsieur le secrétaire perpétuel, de cette généreuse présentation. Je remercie aussi le président, monsieur Michel. Et je dois vous dire que c'est un grand honneur pour moi de présenter mes travaux dans ce lieu magnifique et devant cette prestigieuse assemblée. Je remercie aussi Jean Prodromides, qui a été à l'initiative de cette rencontre, et monsieur Xavier Hermel, qui a bien voulu organiser matériellement les choses. Mesdames et messieurs les académiciens, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, pour l'historien des idées scientifiques, comme pour l'historien de l'art, la main est un objet extraordinairement riche. Si je me suis intéressée à la main, c'est parce que mon intérêt va vers l'évolution humaine, vers l'histoire des techniques à leur origine et l'histoire de l'art à ses origines. La main humaine se trouve en effet au centre de tous ces questionnements. Elle a fait l'objet d'études et de réflexions de nature multiple. Depuis Aristote et Anaxagore, qui débattaient sur la question de savoir si l'homme est intelligent parce qu'il a une main, les anatomistes et les anthropologues ont souligné les particularités de la main humaine, si primitive dans sa structure qu'elle est sur le même modèle que l'extrémité du membre des premières vertébrés. Et voici ici un des premiers vertébrés qui ont marché sur la Terre, Acanthostega, il y a environ 365 millions d'années. Et vous voyez que cette patte, qui a peut-être 7 doigts, mais en tout cas a un schéma très proche de notre main. Donc depuis ces premières vertébrés jusqu'à nous, main qui est restée presque inchangée, mais qui est si sophistiquée dans ses capacités gestuelles, en relation avec la bipédie et en relation avec les zones motrices et associatives du cerveau, et qui marque ainsi la spécificité même de l'homme. Vous avez ici la comparaison entre la main antérieure et postérieure du chimpanzé. On peut dire main pour la main postérieure, ce n'est pas un pied, puisqu'elle est préhensile, il y a un pouce opposable, et l'anatomie de la main et du pied humain, où on voit dans cette dissection de Nicolas Tulpe, qui est le professeur qui est représenté dans la leçon d'anatomie de Rembrandt, dont je dirai deux mots tout à l'heure, et on voit bien la différence entre l'anatomie de la main et du pied humain, et qui marque précisément la singularité humaine. Ici, vous avez donc cette étude des fonctionnalités du cerveau, où on voit la très grande part qui est réservée à la main et aussi au langage, puisque, comme l'ont montré beaucoup d'anthropologues, la libération de la main par la bipédie est corollaire de la libération de la bouche, des fonctions de l'appréhension, et donc pour le langage. Donc association de la main et du langage dans le processus même du devenir homme de l'homme, de ce que les anthropologues appellent l'hominisation. La main aussi est celle qui rend l'homme technicien, c'est celle qui permet par ses possibilités non seulement de préhension, mais par tous les gestes dont elle est capable de tailler l'outil et de l'utiliser. Les écrivains de Montaigne à Paul Valéry ont célébré les multiples capacités de cet organe si particulier, organon pro organon, disait déjà Aristote, qu'ils l'ont nommé le dieu à 5 doigts. C'est une expression de Henri Faucillon dans son Éloge de la main, qui est un très beau texte que je vous recommande de lire. Les qualités multiples de la main se lisent dans les capacités créatrices de l'artisan, dans celles de l'artiste, du poète qui écrit, du musicien qui joue de son instrument ou qui dirige l'orchestre, celles du sculpteur qui modèle l'argile et du peintre qui tient le pinceau. Ce n'est donc pas un hasard si les mains se trouvent au centre de multiples figurations picturales, et j'évoquais tout à l'heure ce tableau de Rembrandt, et ces mains qui se trouvent au centre du tableau, regardées par tous, la main disséquée du cadavre, c'est celui d'un voleur à main armée, qui a été condamné à mort, la main du professeur Tulpius qui tient l'outil, qui tient l'instrument de dissection, et l'autre main qui marque du geste l'explication par la parole. Voici un des innombrables exemples où on voit un traitement de la main dans l'histoire de la peinture. Mais je voudrais, quant à moi, me projeter dans un moment très ancien de l'histoire de l'humanité et de l'art, où émergent les premières représentations figurées sur les parois des grottes et où se lisent, parmi les thèmes épiques de l'art animalier, des images de mains. Cette époque suit l'arrivée d'Homo sapiens en Europe occidentale il y a quelque 40 000 ans. Elle ne coïncide pas avec l'origine bien plus ancienne d'Homo sapiens, mais l'on y voit apparaître sur les parois des grottes les premières représentations figuratives que l'on peut, même si cette appellation a parfois été discutée, nommer artistique. Alors avant de vous parler de la représentation de la main, je voudrais vous montrer quelques images d'empreintes, puisque c'était l'objet d'un de mes derniers livres, et que c'est une marque qui précède et qui, à mon avis, ouvre sur la représentation même. Ainsi, grâce à des procédures très élaborées de moulage des surfaces, qui ont été mises au point par Léon Pal dans les années 1970 et par Michel Garcia, les ichnologistes ont pu faire les moulages de sol sur lesquels on voit des empreintes de mains, comme à Fontanet, par exemple, dans l'Ariège, l'empreinte de cette main d'enfant, ou ailleurs, l'empreinte à côté d'un pied chaussé de tracé au doigt, de petites ponctuations faites au doigt. Voici encore d'autres marques de mains d'enfants, dont celle de la grotte costière à gauche a été réalisée à plus de 2 mètres de haut, ce qui signifie que l'enfant était probablement tenu ou porté juché sur les épaules d'un adulte. Donc on connaît des mains d'enfants, d'adultes, imprimées ainsi sur les parois ou sur les sols des grottes. Et la raison pour laquelle ces traces m'intéressent, c'est qu'on peut marquer une sorte de continuité entre elles et ces tracés digitaux, c'est ce que l'abbé Breuil appelait prosaïquement des macaronis, hein, qu'on trouve très souvent sur les parois des grottes ornées, ainsi à Rouffignac, sur ce plafond bas où on a l'impression que quelqu'un a rêvé en laissant promener sa main sur la surface de ce plafond. Et ainsi, on peut penser peut-être une continuité de l'empreinte et de la piste au geste de la main qui trace, qui dessine et qui peint. La lecture et le déchiffrement des traces permettent ainsi de passer de façon quasi continue de l'empreinte de la main au tracé effectué à l'aide du doigt ou d'un objet et à ce qu'on nomme peut-être de façon impropre l'œuvre d'art préhistorique, c'est-à-dire l'inscription de signification. Vous voyez ici comment ces tracés digitaux deviennent des formes animales. Ici, on voit la forme d'un mammouth qui émerge de ces tracés. Et ici, par exemple, dans la grotte Chauvet, on voit ce dessin fait au doigt d'un cheval, qui est d'ailleurs superposé à des griffates d'ours, comme s'il y avait une sorte de rencontre entre la main de l'ours et son expression, si l'on veut, et celle de l'homme. Et les préhistoriens ont trouvé dans la crinière du cheval des empreintes digitales, hein, ce qui marque bien la présence, au fond, physique de la main dans cette figure. Alors passons maintenant à la main elle-même, puisque c'est l'objet de ma présentation, la main représentée. C'est un thème permanent dans l'art paléolithique et même non seulement en Europe, mais l'art mondial, l'art rupestre mondial. On en trouve des mains négatives comme celle-ci en Asie, en Amérique du Sud, en Australie. Et donc c'est un thème extrêmement répandu. Alors la question qu'il faut poser et que je pense les préhistoriens se sont posés, c'est de savoir comment considérer dans la chronologie même de l'art préhistorique ces figurations de main. S'agit-il d'expressions archaïques, spontanées, comme des expressions d'enfants, ou bien d'expressions plus complexes, relevant d'une symbolique élaborée. Alors, en tout cas, ce dont témoignent ces figures de main, c'est de ce que le corps humain est très rarement présenté, représenté dans l'art paléolithique. On n'en trouve que des fragments, en quelque sorte, des mains, des sexes, des parties du corps. C'est un peu différent dans l'art mobilier, puisqu'on a des statuettes entières. Mais dans tout ce qui concerne l'art pariétal, c'est-à-dire l'art des grottes ornées, le corps humain n'est pratiquement pas représenté depuis les origines, c'est-à-dire il y a 30 000 ans, jusqu'à la fin du paléolithique supérieur, il y a quelques 10 000 ans. Le corps humain, dans sa totalité, est très rarement représenté. Donc ce sont les mains qui dominent ces représentations du corps, ces fragments de corps, main positive ou main négative. Alors il faut faire une différence entre la main directement appliquée sur la paroi, la main enduite de pigments et apposée sur la paroi comme un tampon, ou alors la main négative qui est posée sur la paroi aussi, mais c'est son contour qui est dessiné et tracé par un pigment appliqué au pochoir ou encore par la technique du soufflage ou du crachis. Michel Lorblanchet, le grand préhistorien contemporain, a beaucoup étudié les techniques artistiques des chasseurs-cueilleurs des aborigènes d'Australie et a trouvé dans leur technique ce talent de souffler des pigments préalablement mélangés à la salive dans la bouche. Eh bien, souvent, ces pigments ont été ainsi projetés à l'aide peut-être d'une sarbacane parfois, ou directement sur la paroi autour des mains, dont elles marquent ainsi le contour. Or, les mains négatives sont beaucoup plus fréquentes dans l'art pariétal préhistorique que les mains positives. Et d'ailleurs, elles ont beaucoup plus intéressé les préhistoriens parce qu'elles font, et les historiens de l'art, parce qu'elles sont déjà une élaboration plus complexe que le seul fait de poser la main sur la paroi. Alors, comment penser la chronologie de ce thème? Est-ce qu'il s'agit bien du geste figuratif le plus archaïque? On a envie de penser l'histoire de l'humanité comme une sorte de récapitulation, l'ontogénèse qui répète la phylogénèse, ou l'histoire de l'humanité qui répète l'histoire de l'individu. Et c'est vrai que les enfants ont ce geste spontané d'appliquer leurs mains couvertes de boue sur les murs ou sur les parois. Alors, faut-il penser que c'est un thème primitif, premier de l'art? C'est ce que pensait l'abbé Breuil, pour qui ces mains négatives existaient avant toute autre manifestation picturale, écrivait-il, mains cernées de couleurs rouges, brunes, violacées, noires, parfois jaunes ou blanches, auxquelles il pense que s'associent de très rares ponctuations, des rangées de disques en série et parfois de timides amorces de dessins au trait, écrivait-il. Donc pour lui, ces mains négatives appartiennent au cycle qu'il appelle orignaco-périgordien, c'est-à-dire la première période de l'art paléolithique. Annette Lamy-Lempereur, historienne de l'art préhistorique, qui a étudié l'art préhistorique, a elle aussi, malgré toutes les critiques qu'elle a pu adresser à l'abbé Breuil, noter que ces figures de mains caractérisaient l'étape archaïque de l'art paléolithique et étaient associées à des gravures profondes de silhouettes animales frustes. Le roi Gourand, le préhistorien Le roi Gourand, qui a écrit un monumental ouvrage en 1965 intitulé « La préhistoire de l'art occidental », a une approche plus complexe et plus nuancée de cette histoire. Il désigne des styles caractéristiques de l'art paléolithique et pour lui, le thème de la main appartient non pas au style le plus ancien, le plus primitif, mais à une période seconde, le style qu'il appelle le style 2 et 3. Et aussi, il s'attache à faire des différences de thèmes selon les régions. Et c'est un petit peu cette approche qui est retenue aujourd'hui. puisque nous savons que les figures de main appartiennent plutôt à la période gravettienne, qui n'est pas la période la plus ancienne de l'art paléolithique, et que donc elles sont aussi localisées pour une grande part dans l'ère cantabrique, c'est-à-dire autour des Pyrénées, en France et en Espagne, bien qu'on en trouve aussi ailleurs. On en trouve dans la vallée du Rhône, on en trouve en Ardèche, on en trouve sur le pourtour méditerranéen et de façon plus sporadique dans d'autres sites. Ça ne veut pas dire que les mains négatives ou positives, d'ailleurs, n'existent pas ailleurs et à d'autres périodes. On les trouve pendant tout le paléolithique, dans tout l'art paléolithique, mais elles dominent, en tout cas, à cette période gravettienne. Ce tableau est dû à un jeune chercheur qui prépare un livre sur cette période ancienne de l'art paléolithique, qui s'appelle Stéphane Petroniani. Donc on voit ici la distribution des mains, et vous voyez que certains sites, et j'en parlerai de façon plus précise, comme le site de Kosker, de Gargas, porteurs de ces El Castillo, Maltravieso en Espagne, sont porteurs de ces marques, de ces images de mains négatives en plus grande abondance que d'autres. Alors donc, dans l'art paléolithique européen, les représentations de mains sont plus nombreuses au gravettien, entre 29 000 et 22 000 avant le présent, mais on les trouve bien que moins fréquentes à toutes les époques du paléolithique supérieur. La plus grande concentration de ces figurations se trouve dans l'ère cantabrique, mais on en trouve aussi dans d'autres régions, pourtour méditerranéen, vallée du Rhône, Ardèche, Charente, etc. Les mains négatives connues sont beaucoup plus nombreuses que les mains positives. Le tableau que je vous ai montré évalue environ 600, un peu plus de 600 mains négatives. On en connaît à peu près 30 mains positives. Alors, je voulais vous montrer ces statuettes pour dire qu'à cette époque du gravettien, si le thème de la main est présent dans l'art pariétal, il est parfois assez négligé dans l'art mobilier. Ces statuettes de la même époque n'ont pas de mains ou des mains très réduites. Ce qui intéresse visiblement le sculpteur, c'est plutôt les parties médianes du corps, celles liées à la fécondité ou à la sexualité. Alors, je vais maintenant essayer d'étudier un petit peu plus en détail ces différents sites et vous montrer quelques images qui représentent ces mains et voir comment on a pu les lire et les interpréter. Alors, la grotte Chauvet, dont vous avez, je crois, entendu parler par Jean-Claude, qui en est celui qui l'a le mieux étudié, la grotte Chauvet a été découverte donc en 1994 à Vallon-Pont-d'Arc, en Ardèche, et elle comporte jusqu'à présent connu 420 représentations d'animaux magnifiques, extraordinairement maîtrisées. De nombreuses datations directes par la méthode du carbone 14 ont donné des résultats cohérents, proches de 31 000 ans avant le présent. Les œuvres de la grotte Chauvet datent donc de l'Aurignacien et comptent parmi les plus anciennes du monde. On y trouve plusieurs figures de mains positives et négatives mêlées aux représentations animales qui témoignent de ce que l'image de la main associée à ces figure très, très belle et très maîtrisée, l'image de la main n'est pas la marque seulement d'un art balbutiant et archaïque. Alors, quand on entre dans la grotte, j'y suis entrée moi-même, je n'ai pas vu le film, mais je pense qu'on doit voir à partir de l'entrée de la grotte, ça n'est pas l'entrée préhistorique, mais disons que c'est l'entrée qui a été ménagée pour pénétrer dans cette cavité, eh bien, on tombe très rapidement devant cette paroi rocheuse qui est couverte de mains positives. Et donc, on a là une image très, très saisissante, hein, où se multiplie, à droite, vous avez le schéma de la disposition des mains, et à gauche, vous avez le panneau lui-même. Donc, sur ce panneau, on voit la même main représentée un grand nombre de fois. Alors, quelle est la signification de cette marque répétée? Est-ce que c'est une signature? Est-ce que c'est une expression rythmique qui était associé à la parole ou au chant? Est-ce que c'est simplement l'expression un petit peu excessive d'un individu qui exprime ainsi sa propre personnalité par cette image répétée de sa propre main? En tout cas, à l'entrée donc, de cette grotte, cette main nous accueille et nous montre la voie. Alors, il y a d'autres lieux de la grotte, comme ce couloir, cette frise des rhinocéros rouges, où on distingue, sur la droite du panneau, des mains positives, droite et gauche, et une main négative, en haut à droite. Si vous voyez, là, dans ce coin. On trouve aussi une autre main négative à Chauvet, associée à la figure schématique d'un mammouth. Et vous voyez que ce tracé noir donne l'image. Pardon, excusez-moi, je suis un peu brutale avec cet appareil. Cette image est associée à la partie antérieure de celle d'un mammouth qui est tracé ainsi en noir. Alors, autre grotte récemment découverte, la grotte Kosker, qui est une grotte sous-marine qui a été découverte en 1991 par un plongeur au large de Marseille. Et on y trouve également à cette période gravettienne un certain nombre de mains, environ 55. Elles sont toutes situées dans la partie est de la grotte et elles semblent ainsi jalonner un cheminement qui mène au grand puits, aujourd'hui noyé, mais qui jadis constituait un gouffre obscur, profond de 24 mètres, qui a dû effrayer les premiers visiteurs de la grotte il y a 27 000 ans. Alors, ces mains négatives, elles sont incomplètes, et je vais commenter tout à l'heure, s'agissant d'un autre site, celui de Gargas, la signification de ces doigts incomplets que l'on retrouve parfois sur les parois des grottes. Voici une autre main au doigt incomplet et qui est barrée, qui est à la fois négative, entourée de pigments noirs et barrée d'encre rouge. Alors la grotte de Gargas, c'est sans doute la grotte la plus célèbre pour ses mains. On l'a appelée la grotte des mains d'ailleurs. C'est une grotte très grande, qui est creusée dans une roche calcaire gris clair d'âge jurassique et située dans un chaînon calcaire, le massif du bois du Gouret, qui domine la vallée de Nest. Cette grotte a été découverte en juin 1906 par Félix Regnault. Et Félix Regnault a commencé par découvrir ses mains rouges, négatives. Il a gardé sa découverte secrète, mais c'est quelques années plus tard, lors d'un congrès international à Lyon en 1913, qu'il s'est ouvert de cette découverte qui a suscité la curiosité du jeune abbé Breuil. Et ensemble, ils ont ensuite exploré la grotte et recensé près d'une centaine de mains et des gravures faites au doigt sur l'argile des voûtes de la grande salle. Bien d'autres découvertes ont suivi et en 1976, le préhistorien Claude Barrière relève 326 figures de mains disséminées sur les parois et le plafond des grottes, cachées dans presque chaque recoin. Mains positives, appliquant directement le pigment sur la paroi, ou mains négatives, dont le contour est cerné de rouge ou de noir par le pigment soufflé. Beaucoup sont petites et semblent des mains d'adolescents ou d'enfants, inscription des paumes indiquant la naissance des phalanges, mains aux doigts entiers ou incomplets. Ces dernières paraissent mutilées, il manque une phalange, parfois un doigt entier, tandis que les pouces sont toujours intacts. Ces mutilations, entre guillemets, ont fait couler beaucoup d'encre. On a évoqué des maladies, la lèpre, des gelures graves, qui peuvent provoquer la perte des phalanges. Mais comme le note un zoologue à l'université de Fairbanks en Alaska, Dale Guthrie, les individus qui vivent dans des régions aux températures extrêmes, qui font des courses en traîneau à chien ou l'ascension des montagnes, ont parfois des tissus gelés. Cependant, en Alaska, un des lieux les plus froids de la Terre habitée, la perte totale d'un ou plusieurs doigts par l'effet du gel est rare, et je ne l'ai jamais observée. On a évoqué certaines pathologies, comme je vous le disais, la maladie de Raynaud, et le docteur Ali Sali dans les années 50, a produit une monographie sur la question, une pathologie qui a pour effet d'atrophier les doigts. Mais peut-on croire que les hommes préhistoriques étaient victimes de ces maladies mutilantes, très rares aujourd'hui? Et dans ce cas, comment supposer que tous ces malades aient pu se donner rendez-vous dans la même grotte pour y dessiner leurs mains? L'abbé Breuil, quant à lui, croyait à de véritables amputations, mutilations rituelles, peut-être en signe de deuil, ou pratiques profanes d'amputation pour punir un délit ou marquer l'appartenance. De telles interprétations ont été fortement mises en doute. C'est André Leroy-Gourhan, ici encore, qui a, voici les gravures, certaines des gravures relevées par Barrière qu'on trouve à Gargas. Voici la main à la niche, une main qu'on trouve solitaire sur une des parois de la grotte. Alors, André Leroy-Gourhan, qui a démystifié beaucoup des fameux mythes préhistoriques, s'est attaché à ce problème et l'a étudié avec beaucoup de précision. Voici ce qu'il écrit. Que des chasseurs se soient coupés tous les doigts de la main pour avoir plus de chance à la chasse, ou que dans le même but, ils les aient coupés aux futurs chasseurs qui étaient leurs enfants, ne correspond pas à une démarche économiquement défendable, même et surtout dans des communautés primitives. Et il préfère penser que ces figurations traduisent une sorte de langage des signes, un code de chasseur tel qu'il en existe chez certains peuples de chasseurs-cueilleurs aujourd'hui. Voici le relevé très précis que le roi Gouron a fait de ces différents signes, de ce qu'il lit comme des différents signes, et il a montré que chacun d'entre eux pouvait être élaboré par la main posée à l'envers sur la paroi et avec les doigts repliés. Les doigts, donc, n'étaient pas mutilés, mais repliés pour figurer grossièrement la forme d'un animal ou encore pour indiquer en silence la proximité du gibier. En effet, seules les phalanges que l'on peut replier aisément sont manquantes. Le contour de la main a pu être dessiné ou soufflé, le dos de la main appliqué à la paroi. Voici, par exemple, ce langage des signes manuel, tel que l'a relevé Michel Laure Blanchet chez les Australiens, chez les aborigènes d'Australie aujourd'hui. On voit des figures qui ressemblent à des animaux par leur contour et que l'on peut rapporter à la main repliée de différentes façons. Ainsi, l'hypothèse qu'émet le roi Gouran, qui avait déjà d'ailleurs été formulée par le folkloriste Saint-Yves, lui permet au terme d'une étude détaillée de la distribution des mains, de leur localisation, de leur forme et de leur couleur, de conclure que le choix des positions de doigts correspondait avec un code manuel de caractère courant, comme celui que pratiquent encore les bauchiments pour la chasse. La distribution des mains, systématiquement comparée à celle des figurations animales, pourrait révéler des constantes similaires. Grâce à cette lumineuse explication, le mythe des mutilés de Gargas, écrit le roi Gouran, perd beaucoup de son caractère lugubre, tandis que s'ouvre la possibilité de décrypter un des premiers systèmes de signes du monde. Une autre grotte est célèbre aussi pour des mains qu'on y trouve, c'est la grotte du Pechmerle dans le Quercy. Ici, vous voyez, c'est une très belle grotte avec beaucoup de concrétions de stalactites qui l'ornent. Et au fond de cette photo, vous pouvez voir le fameux panneau des chevaux, dont je vais vous montrer un détail. Voici ce fameux panneau des chevaux, donc des chevaux ponctués, et entourés aussi de points, et entourés aussi de mains négatives. Ces mains s'associent donc à ces points pour marquer une sorte de présence rythmique autour de la figure elle-même. Que signifient-elles? Elles sont de toute façon certainement associées à la figure. Quel est le sens de cette association avec l'animal? Marque-t-elle l'appartenance à un clan? Marque-t-elle l'existence d'un mythogramme, c'est-à-dire l'image du mythe sur lequel la parole pouvait se déployer. La parole et le récit pourraient se déployer. En tout cas, ou alors évoque-t-elle un rituel chamanique ou magique qui fait surgir l'animal de la paroi même. L'historien de l'art Max Raphael a proposé une interprétation intéressante et originale de l'association des animaux et des mains. Dans un texte publié en 1945, cet historien de l'art, qui a écrit sur Picasso et sur bien d'autres artistes avant de s'intéresser à l'art paléolithique, cet historien de l'art a écrit un texte intitulé « La magie de la main ». Et dans ce texte, il essaye de montrer l'importance de ce thème de la main en rapport avec les représentations animales dans l'art pariétal paléolithique. Pour lui, l'association de mains négatives avec des représentations d'animaux a une profonde signification à la fois esthétique et symbolique. La main, d'après lui, réalise dans ses proportions le nombre d'or qui se retrouve dans les proportions mêmes des animaux peints. Et il se livre à de savants calculs pour montrer que la main est à la fois une, mais en même temps divisible, puisqu'on peut la diviser par deux, par trois, en fonction des doigts que l'on unit ou qu'on sépare. Et il reconnaît dans ce bison de fond de gomme des proportions qui, selon lui, relèveraient aussi de l'utilisation du nombre d'or. Mais au-delà de cette idée du nombre d'or, qui est aujourd'hui un petit peu vieillie, Max Raphael explique que la main associée aux animaux marque la domination de l'homme sur l'animal, à la fois parce qu'elle fait partie d'un système de signes, de chasse, et donc à la fois par la capacité de les chasser, les animaux, mais aussi par la capacité de les représenter. La main marque la domination humaine sur l'animalité, à la fois par l'outil, par la chasse, et par le dessin et la représentation. Alors, ces idées de Max Raphael ont été assez peu reprises, mais je trouve qu'elles ont un certain intérêt en ce qu'elles essayent de lire, en tout cas, le rapport de l'animal et de la main comme un rapport de composition et de relation, et non pas comme des figures dissociées. Alors, une troisième question que l'on peut poser, qui relève de la réflexion sur ses mains, est celle de l'identité de ce qu'elle représente. Je m'en réfère encore à l'art australien, parce que c'est un art pour lequel nous avons non seulement des images livrées par les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, mais aussi des commentaires dans le présent. Et pour les chasseurs-cueilleurs que sont les aborigènes australiens, l'empreinte, écrit Michel Laure-Blanchet, révèle les caractéristiques individuelles, la taille, le poids, la démarche et jusqu'à la psychologie d'un individu. Il n'est donc pas étonnant que les aborigènes considèrent souvent les mains comme de véritables signatures. Dans les sites sacrés du Kimberleys, les images de mains signalent que tel individu a participé à telle ou telle cérémonie. Ce sont aussi parfois des signatures des artistes qui ont peint les figures voisines. Elkin a noté que les hommes de la tribu sont capables de reconnaître l'auteur de chaque main négative. Et quand celui-ci est mort, l'image de sa main sur la roche éveille son souvenir. Il parle alors de lui, les yeux pleins de larmes. Et la main, la reconnaissance de la main, est comme la reconnaissance pour nous d'une photographie ou d'un portrait. Elle éveille les mêmes émotions. Donc, chez ce peuple de chasseurs qui lit, qui sait lire les traces, qui sait lire les empreintes, eh bien, il y a aussi cette capacité de regarder la main et de reconnaître l'identité de son auteur. Voici des mains positives de l'art australien. Alors, cette question de l'identité de ceux qui ont apposé leurs mains et de ceux qui ont dessiné ces mains dans l'art paléolithique, elle se pose aujourd'hui de façon assez vive et brûlante dans plusieurs publications récentes. En effet, une des questions est de savoir qui des hommes, des femmes, des adolescents a figuré ses mains sur les parois. Dans un livre volontiers provocateur intitulé « The Nature of Paleolithic Art » publié en 2005, un gros livre, qui est celui d'un biologiste, d'un zoologue et d'un biologiste, Dale Guthrie démontre que les mains figurées sur les parois des grottes sont essentiellement celles de jeunes hommes. Pour lui, la plupart des peintures paléolithiques ont été réalisées par des adolescents isolés du reste de la tribu, de jeunes mâles chassant en groupe. Les représentations féminines au caractère sexuel exagéré et les vulves souvent figurées dans l'art mobilier, dessinées ou gravées sur les parois, seraient l'expression de leurs désirs et de leurs frustrations, en somme, dit-il, l'équivalent paléolithique de Playboy. Guthrie, animé par une vision biologisante de l'expression artistique, voit l'effet de la testostérone dans l'imagerie paléolithique et reconnaît dans ses graffitis plus ou moins érotiques ou humoristiques les ancêtres des inscriptions et des tags modernes. Il consacre de longs développements à l'identification des mains représentées. Je cite « Des individus de tous âges et des deux sexes ont laissé les contours de leurs mains dans les grottes paléolithiques, mais celles des jeunes gens et plus précisément des adolescents dominent. À en juger par la rapidité, la désinvolture et le peu de soins avec lesquels elles ont été réalisées, ces images de mains ont toutes ou presque toutes été faites par jeu. Les prétendues mutilations résultent d'altérations volontaires de l'image ou de contorsions des doigts. Quant aux empreintes de mains ou de pieds, ou des pieds sur le sol, la prédominance de traces d'enfants prépubères ou d'adolescents fait penser à des rites d'initiation destinés aux jeunes gens. Un autre chercheur américain, Dean Snow, a contesté cette hypothèse. Grâce à un logiciel qu'il a mis au point, il prétend identifier les auteurs des mains positives ou négatives de l'art rupestre paléolithique. Il examine ainsi les empreintes de mains dans la grotte de Pechmerle, dont je vous ai montré le fameux panneau des chevaux, et conclut que les mains négatives qui entourent cette célèbre figure sont en majorité celles de femmes. Faut-il en conclure que le panneau est une œuvre féminine ? Ce qui serait confirmé par d'autres sites les plus riches en mains négatives de la même période, Gargas, Maltravieso ou El Castillo. Une telle conclusion, si elle est vérifiée, aurait un fort retentissement sur notre vision des cultures paléolithiques et contribuerait à mettre en cause la vision traditionnelle de l'art paléolithique comme une réalisation masculine. Cette idée a récemment été reprise par d'autres archéologues. Dans un ouvrage récent sur les grottes ornées de Bornéo qu'ils ont découvertes, l'anthropologue Jean-Michel Chazine et le photographe Henri Fage signalent également, dans les grottes paléolithiques qu'ils ont découvertes, l'abondance de mains de femmes décorées et associées à des symboles féminins. Plus encore, ils se réclament aussi d'un logiciel élaboré avec l'aide d'un informaticien à partir de l'indice de Manning, c'est-à-dire la mesure du rapport de la longueur entre l'index et l'annulaire. Chez les femmes, l'index et l'annulaire sont de la même taille, alors qu'il y a une différence chez l'homme. Il pense ainsi pouvoir distinguer, par l'étude d'un panneau de la grotte de Guamasri à Bornéo, les mains appartenant à des hommes et à des femmes. Ces deux catégories occupent sur le panneau des emplacements différents. Et on peut là aussi imaginer, tirer toutes sortes de conclusions intéressantes de cette distribution des marques laissées par les hommes et par les femmes. En tout cas, toutes ces questions ouvrent sur des possibilités passionnantes d'exploration de ces figures de mains dans l'art paléolithique. Voici donc d'autres mains de femmes et le livre de... c'est Luc-Henri Fage. Le livre de Chazine et de Fage est absolument magnifique et cet art de Bornéo est presque entièrement constitué d'images de mains, mais images de mains décorées souvent, parfois unies par des sortes de canaux qui les relient entre eux. Alors je vais arriver à ma conclusion. Sans doute, l'inscription des mains sur la paroi est un des gestes les plus fréquents, peut-être même les plus spontanés de l'homme qui peint et qui représente. Cette permanence, depuis le paléolithique supérieur jusqu'à nos jours, des marquages sur la paroi, dont le plus simple est sans doute la position ou le dessin de sa propre main, a d'abord le sens de témoigner d'une présence, de révéler le passage des hommes dans les couloirs obscurs des grottes ou dans des lieux de plein air difficiles d'accès. Ainsi, dans les hautes vallées alpines datant de l'âge du bronze, Parmi les gravures rupestres du Mont Bégaud ou du Val Camonica, on retrouve des images de mains ou de pieds incisées dans la pierre, gravées à la pointe de quartz, au couteau ou au burin, apposées à d'autres figures énigmatiques. Avant même d'être signe ou figuration, ce marquage témoigne d'une présence, peut-être d'une protestation de la volonté humaine face à l'infini de la nature. Intention de marquer le passage, manière de signer le style de sa présence au monde, mais aussi de donner une matérialité au temps passé, particulièrement au travail, ce marquage induit un fort rapport à la mémoire, car il persiste une fois la présence de l'auteur évanouie. La trace prolonge le temps où il s'est trouvé là, écrit l'ethnologue Guillaume Lebaudy. Ce qu'il y a d'émouvant et de fascinant dans la main peinte au pochoir, c'est non seulement qu'elle représente certainement des éléments, des configurations culturelles élaborées et complexes, systèmes de signes, représentations symboliques, en rapport avec des rituels magiques, religieux ou divinatoires, témoignages de rituels d'hominisation, mais c'est aussi que c'est l'empreinte du corps même. Le peintre, dit Maurice Merleau-Ponty, en citant Paul Valéry, le peintre apporte son corps. C'est en prêtant son corps au monde que le peintre change le monde en peinture. Et dans ce texte de 1961, Le visible et l'invisible, Merleau-Ponty commente non seulement les images de Lascaux, mais aussi les figures de mains positives et négatives de l'art pariétal préhistorique. La main est tout à la fois inscription du corps et du souffle, mise en œuvre de techniques de reproduction et représentation symbolique. Avant toute signification, la main peinte est présence, être là de son auteur. Elle est une manifestation d'humanité, la présence d'un corps. Elle signifie que d'autres hommes ont laissé là leur trace, leur empreinte. La découverte ou la redécouverte pour chacun de nous de l'art paléolithique, c'est précisément le moment où nous reconnaissons, à travers cette figure peinte ou gravée sur la paroi il y a des millénaires, une humanité qui nous ressemble. Contempler l'art paléolithique, c'est ainsi d'abord lire l'intention de celui qui a laissé la marque de sa main, miroir de la nôtre, lorsque nous la regardons. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre Claudine Cohen. Lors de la séance publique de l'Académie des Beaux-Arts le 7 mars 2012, elle est venue prononcer une communication en public intitulée « La préhistoire en images, l'art pariétal ».